cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 27 janvier 1987.
Alors, ça m'était rapporté. C'était un bon paysan. Alors, qu'il disait à son fils, Curé de campagne, oui, mais évêque, non. C'est le vicaire épiscopal qui me racontait ça. On voit très bien ce que c'est, tu vois. C'est l'autre qui ramène l'autre à ses vraies dimensions. On se laisse si facilement emporter par l'enflure, par la flatterie. On se dit, mais non, mais non. Connaissance de soi-même, c'est important pour la personne. On n'est pas une personne si on n'a pas une connaissance de soi, au sens plénier. Je ne définis pas la personne par la conscience, mais par la connaissance. C'est pas la même chose. Et je ne dis pas que c'est la personne au niveau métaphysique, mais je dis que l'homme parfaitement développé implique la connaissance de soi. Et une sorte d'autocritique de soi. On sait ce qu'on est, à la fois ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Donc on ne joue jamais un personnage ridicule. Parce que c'est vrai, quand on ne sait pas ce qu'on est et qu'on vous donne une charge qui est plus grosse que votre personnalité, ça se voit tout de suite. Il est écrasé par sa charge. Alors la personne diminue et la charge augmente. C'est ça le ridicule. Et c'est ça que les caricaturistes montrent. Des grosses têtes, un petit corps, des tout petits pieds. C'est ça. On voit très bien, ça fait merveilleux. Et on comprend tout de suite. Parce que les caricaturistes saisissent la personnalité. Ça, très bien, ça, il montre ça très en lumière. Donc, Aristote montre bien que l'ami, grâce à son ami, atteint un dépassement de la vertu, donc une certaine fin. Un bien qui est sa fin. Donc, il y a un développement humain et une connaissance de soi. Je crois que c'est les deux éléments, c'est pour ça que je peux dire que la personne est présente. Alors, je parlais de la contemplation. Vous comprenez bien que tant qu'on n'a pas découvert l'être premier, il n'y a pas de contemplation au sens absolu. Il n'y a qu'une contemplation artistique. C'est pour ça que, de fait, je suis tout à fait d'accord que c'est l'éthique religieuse. C'est dans l'éthique religieuse que je peux parler de contemplation. Au sens fort. Adoration et contemplation. Cette adoration et cette contemplation s'appuient ou sur les traditions religieuses, ou sur la métaphysique, sur une sagesse. La plupart du temps, c'est sur une tradition religieuse. Les traditions religieuses nous aident beaucoup. C'est pour ça que la suppression des traditions religieuses est très grave pour un pays. C'est très très grave. Parce que c'est de faire que la contemplation devient aristocratique. C'est que quelques-uns qui peuvent arriver à la contemplation. Tandis que grâce aux traditions religieuses, on est porté. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance métaphysique, scientifique de Dieu pour le contempler, grâce à l'amour. On peut adorer Dieu avec les traditions religieuses et une véritable adoration. Parce qu'on est dans l'ordre pratique. Et on est dans un ordre éminemment pratique avec la contemplation. Et l'adoration, c'est l'ordre pratique. Et la contemplation, c'est éminemment pratique, qui touche quelque chose, qui dépasse tout. Alors, vous comprenez bien que c'est par rapport à la contemplation, donc de Dieu, pas la contemplation de l'ami, parce qu'au sens strict, il n'y a pas de contemplation de l'ami. Quand l'ami contemple son ami, c'est pas honnête au sens aristotélicien, au sens moral. C'est une sorte de séduction esthétique qui n'est pas toujours saine. Parce que l'ami n'est pas un objet de contemplation, il est un objet d'amour. On ne contemple qu'un absolu. Non, l'ami n'est pas un absolu dans l'ordre de l'être. Et la personne n'applique pas un absolu complet. vient dans l'ordre de la contemplation quelque chose de très important. Voyez, plus que la vertu. La vertu est moins contemplative que l'amitié. Parce que l'amitié développe en nous notre cœur, développe en nous toute l'affectivité spirituelle. Et cette affectivité spirituelle nous conduit normalement à Dieu. C'est par l'amour qu'on est plus immédiatement conduit à Dieu que par l'intelligence. Il faut un thumos, comme disaient les Grecs. Il faut un grand amour, un grand élan pour découvrir l'existence de Dieu. Et ce grand amour, ce grand élan, il nous est donné très souvent dans l'amour d'amitié, qui nous permet alors de découvrir l'existence de Dieu et de pouvoir le contempler. C'est dans ce sens-là que l'amour d'amitié, je ne dis pas, est une voie d'accès immédiate à Dieu, mais permet, développe énormément. Ce qu'on ne voit peut-être pas assez ordinairement quand, au terme de la métaphysique, voyez, on voit toute épreuve psychologique, et dans l'épreuve psychologique, on prend l'amour d'amitié. Dans les voies d'accès au point de vue psychologique, l'amour d'amitié. Donc, c'est bien un milieu qui nous aide. C'est le sens de la finalité qui nous conduit le plus immédiatement à Dieu. Donc, c'est l'amour spirituel. Je continue rapidement cette petite topic historique pour ponctuer. Je ne reviens pas sur Aristote. Un mot pour les stoïciens. Puisque c'est de fait chez les stoïciens qu'on trouve pour la première fois le prosopon. Le prosopon, donc, qui est ce qu'on traduit personne. Le prosopon, je crois qu'on peut le traduire personne chez les stoïciens. Vous allez voir, pas uniquement. C'est là où on voit très bien, on commence à se servir du mot prosopon. Chez les stoïciens, chez Sénèque, la réalité de la personne est présente, mais le mot n'y est guère. Sénèque écrit en latin. Sénèque parle surtout de l'homme. L'homme de bien, vir bonus, l'homme heureux dans le dialogue de la providence, le sage, la constance du sage par exemple, c'est dans le dialogue sur la constance, c'est le dialogue même de la constance du sage, la tranquillité de l'âme, du moi. Donc le mot persona n'est pas chez Sénèque, je crois pas du tout. Mais la réalité, l'homme heureux, l'homme qui aboutit au terme, chez Marc Aurèle, c'est aussi de l'homme qu'il est question. L'homme composé de corps, de souffle et d'intelligence. C'est intéressant par rapport à la Bible. Oui, ça c'est chez Marc Aurèle. L'homme est composé de corps, de souffle et d'intelligence. C'est dans les pensées 12:3. Il est composé de corps, d'âme et d'intelligence. L'homme est doué d'une âme équilibrée et inébranlable. Et c'est dans ce sens-là qu'il est maître de soi. Alors ça, la maîtrise de soi, chez les stoïciens, c'est capital. Et la maîtrise de soi, nous allons le voir, c'est peut-être l'élément premier par lequel on découvre la personne. C'est très éthique. Alors, c'est surtout chez Épictète. Épictète, il faut toujours le saluer avec beaucoup de respect. L'esclave devenu philosophe. Lisez de temps en temps d'Épictète. Hein. C'est très bon. Et puis Épictète, c'est parallèle à Saul de Tarse. C'est quand même très intéressant. Épictète parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. On va pas l'oublier. Il faudrait très peu de choses pour qu'Épictète soit chrétien. Ah tiens, c'est Zeus. Mais il donne à Zeus un rôle, le dieu des dieux, le seigneur des seigneurs. Donc Zeus devient le dieu. Et tout Épictète consiste à découvrir ce qui, dans l'homme, est ultime. Ce qui, dans l'homme, est le principal, si vous voulez. Donc le problème de la personne proprement dite est explicité, je crois, pour la première fois, chez Épictète. Épictète, c'est le philosophe de la liberté. Une étudiante à Fribourg avait fait son mémoire sur Épictète et Sartre. La liberté chez Épictète et la liberté chez Sartre, c'est très intéressant. Parce que, voyez, vous avez deux extrêmes. Et tous les deux, c'est vrai, c'est le problème de la liberté. C'est pour ça que quand on dit que le problème de la liberté est moderne, c'est pas vrai. C'est Épictète. Le premier philosophe de la liberté, c'est Épictète. Et c'est un philosophe religieux. Et foncièrement religieux. Alors n'opposons pas liberté et attitude religieuse. Aujourd'hui, il serait très important de reprendre Épictète à ce point de vue-là. Parce que, vous voyez, tout le monde est d'accord avec Épictète puisqu'il était esclave. Et puis il est devenu philosophe. Ça peut pas être mieux. Il a tout pour lui. Et c'est la philosophie de la personne et de la liberté. C'est ça. Épictète a joué un rôle important en l'an 50 après Jésus-Christ à Rome. Et il parlait grec. Donc il y a quelque chose de très important. Épictète, il faut, je crois, on doit aimer Épictète, vous voyez, comme on aime Socrate. Ce sont des gens qui ont un cœur pur, qui ne se sont jamais laissés griser par la gloire. Il y a chez Épictète des diatribes extrêmement violentes vis-à-vis des sénateurs romains, des parlementaires d'aujourd'hui. Vous croyez que vous êtes libre, mais pas du tout. Vous êtes dépendant du suffrage universel. Et vous agissez en fonction de ceux qui vous ont élus. Vous êtes donc des esclaves. C'est une réalité d'un réalisme merveilleux. C'est très actuel. Je crois que tout Épictète est très actuel. Pour le vivant raisonnable, alors l'expression to, logico, zoo. Seul l'irrationnel est intolérable. Et les stoïciens, il ne faut pas en faire un chrétien. Mais c'est beau, c'est noble. Pour le vivant raisonnable, seul l'irrationnel est intolérable, insupportable, tandis que le rationnel, le tout des eulogones, le eulogone, c'est pas rationnel, c'est plus que ça. Ce qui est eulogone, ce qui est rationnel, mais en harmonie, bien, qui est bien raisonnable et supportable. Tout ce qui est eulogone, c'est une très belle expression, tout ce qui est eulogone est supportable. Vous voyez, se supporter les uns les autres. C'est les expressions, le... Du reste, le rationnel et l'irrationnel, c'est de lui, sont autres pour un autre, comme le mauvais et le bon, l'utile et l'inutile. C'est pourquoi l'éducation, c'est le père, hein, c'est la philosophie de l'éducation, date de Socrate. Elle passe par Platon, elle passe par Aristote, et puis Épictète. Si on veut faire une vraie philosophie d'éducation, il faut toujours regarder ces grands. Socrate est un éducateur, hein. Ça c'est sûr. Un merveilleux éducateur. Platon a formalisé l'éducation dans la République. Vous avez la place de la liturgie, de la musique. Très très important. Pour la première éducation. Faut dépasser. C'est la première éducation. Les petits bambins, ils ont besoin de ça. Pour que leur corps arrive à être rythmé. Un peu de souplesse. Alors ça, c'est la musique. C'est très important. Il y a des tons qu'on doit exclure, qui sont mauvais, parce qu'ils ne sont pas harmoniques. Aristote reprend l'éducation d'une façon alors beaucoup plus profonde. Puisque pour lui, c'est beaucoup plus éducation de la vertu. C'est beaucoup plus sérieux. Chez Platon aussi, ça aboutit à la justice, mais pas de la même façon. C'est très intéressant de voir les deux. Puis alors, chez Épictète, Épictète est un éducateur. C'est pourquoi l'éducation apprend à adapter conformément à la nature notre prolepsis du rationnel. Notre prolepsis. Prolepsis est un mot très difficile à traduire qui est déjà chez Aristote. On l'a traduit l'appréhension. C'est pour ça que je l'aime de le situer, prolepsis. Vous voyez, c'est aujourd'hui, on dirait, l'ouverture. Je crois que quand on parle de quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui est attentif à ce qu'on dit, prolepsis, il a une intelligence ouverte. Donc, notre prolepsis du rationnel et de l'irrationnel aux réalités particulières, voilà l'éducation. L'adaptation, conformément, adapter conformément à la nature, notre prolepsis, la nature, c'est-à-dire la finalité. C'est pour déterminer le rationnel et l'irrationnel. Nous ne jugeons pas les choses extérieures selon leur valeur, mais encore chacune d'entre nous selon notre personne. Kata to prosopon. Et je crois que le kata troposopon, c'est bien la personne. Donc la personne devient la mesure de l'éducation. Le kata troposopon, c'est pour ça que je vous cite ce lieu. Parce que je crois que c'est là où on le trouve en premier. C'est dans les entretiens d'Épictète. 1, 2, 1. Par le fait même, si l'on se met une seule fois à comparer la valeur des biens extérieurs en les calculant, on est très proche de ceux qui ont perdu le sens de leur propre personne. C'est le tout idiot prosopou. On peut perdre le sens de sa propre personne. Mais si on est d'une objectivité telle, on dirait aujourd'hui si on formalise. C'est ça. Si on est dans des cadres, esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, traduisez ça à la Pascal. L'esprit de géométrie tue la personne, enfin, le sens de votre propre personne. C'est assez beau, ça. Par le fait même, si l'on se met une seule fois à comparer la valeur des biens extérieurs en la calculant, on est très proche de ceux qui ont perdu le sens de leur propre personne. C'est bien l'esprit de géométrie, ça. Il semble bien, alors, j'essaie d'analyser, que prosopone puisse être traduit par personne. Bien que dans d'autres passages, ce mot désigne proprement le rôle personnel, la fonction personnelle. Il y a les deux. Et c'est intéressant de voir que quand le mot prosopone s'introduit, vous avez tout de suite les deux. Ça reste la fonction personnelle. Je vous cite ce passage qui est encore, donc c'est dans le manuel ça, le manuel, parce qu'il y a les deux choses, hein. Il y a les entretiens, le manuel. J'ai un manuel très particulier, le premier manuel. Le manuel, paragraphe 37. Le manuel, c'est le directoire. Les stoïciens voulaient former une famille d'hommes qui pensent qu'ils soient dignes de leur propre personne humaine. Et ils réclamaient tous les jours un certain moment de méditation. La méditation, elle est née avec le stoïcisme. Faut pas l'oublier. contemplation, parce qu'il n'y a plus de contemplation chez les stoïciens. Il y a l'action politique. C'est l'action. Ah, ce sont des gens qui ne font pas être stoïciens, parce qu'on supprimerait la contemplation. C'est une action politique, et une action politique internationale, au-delà de la distinction grecque et barbare. C'est la grandeur des stoïciens. Souviens-toi que tu es comme un acteur. Hypocrites, c'est à toi de bien tenir le rôle, prosopone, donc de tenir le rôle personnel qui t'est confié. Et c'est à un autre de te le choisir. Si tu prends un rôle, prosopone, au-dessus de tes forces, donc une fonction, tu le joues mal. Si tu laisses de côté celui que tu pouvais bien remplir. Oui, ça c'est très très bien. Alors, comprenez bien, dans le stoïcisme, il y a quand même un primat du fait de gérer. Un peu comme Saint-Exupéry, si vous voulez. Ils ont le sens moral très fort, mais quand on regarde bien, on voit qu'en définitive, c'est l'efficacité qui commande tout. Il y a des parallélismes qu'on pourrait faire, vous voyez. La liberté, c'est pour ça qu'il est très proche de nous. Épictète. Un Saint-Exupéry, un Sartre, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez dans Épictète quelque chose de la liberté, quelque chose du fait géré, vous voyez. On joue un rôle. La scène humaine, c'est un grand théâtre. Et dans ce théâtre, jouez votre rôle, votre personne. C'est pour ça que le rôle, la fonction personnelle et la personne sont très proches. Dans toute philosophie où le fait gérer et la gérer se confondent un peu, et où le fait gérer l'emporte un peu sur la gérer, la fonction personnelle et la personne sont très proches. Et c'était le reproche que pourront faire certains avec la vie religieuse, par exemple. La vie religieuse, c'est un grand théâtre. Il faut être bien dans sa fonction. Et la personne se ramènera à la fonction. Dans ceux qui mettraient un primat à la vie liturgique. Alors, c'est la vie liturgique. Jouer sa fonction dans la vie liturgique. Alors, le chantre joue un rôle très important, évidemment, dans ces conditions-là. Et tous les autres sont liés à la baguette du chantre. Et leur personnalité consiste à être très fidèle à ça. On voit très bien leur rôle particulier. Réfléchissez, c'est très important de saisir, parce que c'est intéressant de voir le premier moment où le mot s'introduit, et que ce mot n'a pas encore toute sa vraie dimension et toute sa profondeur. J'allais presque dire, il s'introduit par la fonction personnelle. Parlant du vrai philosophe, qui dans ses actions doit offrir un beau modèle aux autres. N'oubliez pas, hein, que pour les stoïciens, c'est le fameux mot de Sénèque, nati sunt ut exemplar. Voilà le rôle du philosophe. Les philosophes sont nés pour être exemplaires, modèles. Ça, ça joue très très fort parce que tout l'aspect artistique est très présent dans leur activité morale. La distinction entre les deux n'est pas très très nette. Là encore, je crois que c'est le problème très proche de Camus, vous voyez. Sartre, Camus, Saint-Exupéry, c'est curieux, hein. Vous trouvez tout ça dans Épictète. Donc, parlant du vrai philosophe qui, dans ses actions, doit offrir un beau modèle aux autres, Épictète rappelle l'exemple d'Helvidius Priscus, qui préféra mourir plutôt que de ne pas siéger au Sénat dont il était membre, à l'exemple de l'athlète qui risquait la mort si on ne le mutilait, choisit la mort. C'est l'exemple de Socrate qu'on donne tout le temps. rappelez la formule de Sénèque. Natis aut, aut exempla. C'est une formule de Sénèque bien, bien frappée. Cet homme, demande-t-on, a-t-il agi en athlète ou en philosophe? Épictète répond, comme un homme dont le nom a été proclamé à Olympie et qui a lutté. Voilà qui est selon la personne. Kata prosopone. Oui. Le nom de la dignité de la personne. Il agit en homme, maître de lui-même. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Donc, ayant le sens qui devait être principe, il agit kata prosopone, selon la personne. Mais comment reconnaître ce qui est selon la personne? C'est cette expression. Ce n'est pas subitement que l'homme acquiert la noblesse d'âme. Oui, la noblesse, la dignité. Ça, c'est très lié à la personne. Ce n'est pas subitement que l'homme acquiert la noblesse d'âme. Examine seulement à quel prix tu vends ton choix libre. Ton choix personnel. Alors, il y a ce mot très important, le pro-airesis. Pro-airesis et prosopone sont très liés. Pro-airesis, c'est le choix libre. Pro-airesis, c'est le choix personnel. La personne se noue dans le choix. Vous voyez, si quelqu'un est a vraiment du caractère, c'est selon son choix. Du moins, homme, ne le vends pas pour rien. Donc, ne vends pas ton choix libre. On voit très bien. Aux élections, c'est un choix libre de citoyen. Alors, ne le vends pas pour rien. C'est ça qui rappelle. Autrement, tu es rien. Si tu vends ton choix libre, ben, tu n'es rien. Tu nous approuves que tu n'es rien. L'argent passe avant toi. Donc il y a cette idée très très profonde, ceci c'est dans donc, les entretiens 1, 2, 33. Alors, souillé traduit par personne morale le mot proairesis. Toujours. Donc quand vous trouvez dans la traduction habituelle, vous trouvez toujours proairesis traduit par personne. Je ne crois pas que c'est tout à fait juste. Parce que le mot prosopone étant dans Épictète, il faut faire un petit peu attention, que proairesis donne le secret de la personne, je dirais oui. Mais proairesis, c'est un choix libre, personnel, qui détermine la personne. La personne se détermine dans un proairesis, mais ce n'est pas la personne. Le bien de l'homme est la qualité même de son choix. Ça, c'est très net. Le bien de l'homme est la qualité même de son choix. Il dira, tout ce qui arrive indépendamment de mon choix n'est rien pour moi. Ça, c'est la règle d'or du stoïcisme. Ça va très loin. Tout ce qui arrive indépendamment de mon choix n'est rien pour moi. Si mon ami meurt, je n'en peux rien, donc ce n'est rien pour moi. Je ne dois pas m'arrêter. Laissez les morts enterrer les morts. Hein. Voyez la manière stoïcienne de traduire ça. Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a des choses qui dépendent de nous. Il y en a qui ne dépendent pas de nous. Les choses qui dépendent de nous sont libres par nature. Elles ne peuvent être ni empêchées, ni contrarié. Donc c'est bien, vous voyez, le choix libre, c'est bien la liberté qui constitue le noyau central dans le choix libre de ce que c'est que la personne. C'est en ce sens que c'est si moderne. Cette personnalité morale, donc, s'acquiert progressivement en interrogeant afin de discerner avec lucidité ce qui est à moi. Émone, le i émone, ce qui est à moi, ce qui m'appartient. Tout ce qui n'est pas à moi, autrement dit. Donc, de discerner tout ce qui est à moi de ce qui n'est pas à moi, autrement dit, en interrogeant, pour savoir ce qui est en mon pouvoir. Donc, le ti émone et le ti moi existine. Donc, ce qui est en mon pouvoir et ce qui n'est pas en mon pouvoir. Il faut examiner si tel fait dépend ou non de moi. Épictète donne cet exemple. Si on peut me mettre en prison, m'enchaîner, ce n'est pas moi, mais ma jambe qu'on enchaîne et mon corps qu'on emprisonne. Ce moi, c'est ce qui est au-dedans, la proie irrécise que Zeus même ne peut vaincre. C'est ça mon moi, ma proie irrécise que Zeus même ne peut vaincre. Quelque chose en moi. Et alors on voit très bien la différence. Dieu sonde les reins et les cœurs. Ça c'est le stoïcien. Ça je crois, on voit bien la limite de l'abandon stoïcien. En réalité, un stoïcien ne s'abandonne jamais. Il parle de l'abandon à la volonté de Zeus. Mais en réalité, au-delà de la volonté de Zeus, il y a son choix. Il y a son choix. C'est pour ça que c'est de l'acier, un stoïcien. Voyez bien, si on vous emprisonne, c'est pas vous, c'est votre jambe. Votre jambe est en prison. Mon cher ami, je regrette, ma jambe est en prison. Mais je pense très fort à toi, je reste très proche de toi. Alors voilà, ça, c'est un beau stoïcien. Donc, la proie irrécise nous fait toucher un absolu. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire proie irrécise et personne, c'est très proche. Voilà la première apparition du moi dans la philosophie. Ce moi est constitué par la proie irrécise, par le choix, qui porte sur ce qui est en mon pouvoir, sur ce qui est de moi, et par quoi je puis acquérir la grandeur et la noblesse d'âme. Celui à qui toute chose arrive selon son choix est libre. Voilà le libre. Et ça, c'est la personne. Je crois que c'est l'absolu. On est comme divin à ce moment-là. On se divinise. On se divinise en ce choix. C'est très grand. C'est très beau. Ça peut être terrible. On trouve donc chez Épictète une conception nouvelle de la personne. Plus explicite que chez Aristote et Platon. C'est le moi. Choisir, capable de se dominer, capable d'organiser sa vie. C'est le moi dans sa maîtrise la plus parfaite de lui-même, et spécialement des passions de la colère. Parce que les stoïciens considèrent les passions comme un mal, et très particulièrement la colère. Lisez, je vous ai déjà dit, hein, quand vous avez quelques minutes, le De Ira de Sénèque. Très très beau, le De Ira de Sénèque. Surtout si vous avez une propension à la colère. Alors lisez le De Ira de Sénèque. Vous verrez. Cette maîtrise de soi donne aux sages la tranquillité de l'âme, la paix de l'âme. Ça c'est aussi le fruit, vous voyez, de cette domination de soi. Qui est pour lui le vrai bonheur. Le bonheur est immanent, la finalité a perdu sa transcendance. Le vrai bonheur, il est au-dedans de moi, dans la maîtrise absolue de mes actes, dans la tranquillité de mon âme. Et cela permet aux sages de se mettre en harmonie avec les lois de l'univers, de s'y conformer pleinement. Et les lois de l'univers, c'est la volonté de Zeus. Et c'est là, il y a un lien très fort entre les lois de l'univers et la volonté de Zeus. N'oubliez pas que c'est chez les stoïciens que vous trouvez en premier lieu la loi naturelle. les gens de droite proclament si fort, oubliant que ça vient des stoïciens. C'est très intéressant de se rappeler ça. La loi naturelle n'est pas chez Aristote, sauf, on pourrait dire, dans une vision de sagesse. Mais c'est pas une loi, ce sont les intentions du Créateur, c'est pas la même chose. Tandis que la loi naturelle apparaît chez les stoïciens comme étant identique au vouloir de Zeus. Et c'est pour ça que la conformité, se conformer aux lois naturelles, c'est se conformer à la volonté de Zeus. Mais au-delà des lois naturelles, il y a le choix libre. Je choisis librement de me conformer aux lois naturelles. Et donc, s'il y a un choix libre, au-delà de se conformer aux lois naturelles, ce choix libre est plus profond. Il y a là une conception de la personne humaine, donc, qui est toute nouvelle, beaucoup plus immanente, sans véritable finalité, ou plus exactement, une finalité d'immanence. Je crois qu'on pourrait dire, dans un terme aristotélicien, que c'est l'entelecheia qui a tout pris. Beaucoup plus immanente, plus réflexive, cette maîtrise de soi n'a d'autre finalité qu'elle-même. Elle se suffit à elle-même et elle se traduit dans la proairesis, dans le choix libre. Là, je passe le reste. On pourrait dire que chez Plotin, parce que le néoplatonisme de Plotin assume beaucoup de stoïcisme. N'oubliez jamais ça, parce que ça, c'est quand même très important. Étant donné l'importance du néoplatonisme dans toute notre philosophie occidentale. Il faut avoir lu une fois dans sa vie Plotin. C'est indispensable pour comprendre les pères de l'Église, pour comprendre saint Ambroise, saint Augustin, pour comprendre des quantités de choses. Le néoplatonisme est quelque chose de très important. Alors mettez le premier Plotin. Deux siècles après Jésus-Christ. Alors, il faut savoir que Plotin, pour certains, les bons connaisseurs de Plotin posent la question, est-ce que Plotin a connu le christianisme? Il est sûr que Plotin fait une critique terrible, sur certains aspects qui semblent, très proche de certaines sectes chrétiennes. Il y a une critique très particulière chez Plotin là-dessus. Bon, c'est une question qui reste ouverte. On ne pourra jamais la dire. Moi, je crois qu'on peut expliquer Plotin sans christianisme. Plotin a trois sources. Les stoïciens, Aristote, Platon. C'est une sorte de syncrétisme. C'est le premier philosophe qui fait une synthèse comme celle-là. C'est pour ça qu'on dit néo. Hein. Vous comprenez ? Le néo, ça veut toujours dire quelque chose qui n'est pas une source. Au sens strict, le néoplatonisme n'est pas une source. Plotin n'est pas une source, au sens absolu. C'est pas très limpide, mais c'est très beau. C'est extraordinaire, c'est une synthèse extraordinaire du stoïcisme, de l'aristotélisme, avec des critiques véhémentes sur Aristote. Il assume la métaphysique d'Aristote, mais il critique les catégories. La grande critique de Plotin, c'est sur les catégories d'Aristote. Et puis alors, Platon, c'est le divin. On peut dire que Plotin, c'est une espèce d'exégèse de Platon. C'est le premier philosophe exégète. C'est une sorte d'exégèse. Les commentateurs, ça commence avec Plotin. Mais un très grand, hein, quand je dis qu'il y a c'est pas une source, C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'il y a chez lui quelque chose de très très fort, de l'intériorité. C'est l'intériorité, c'est le dépassement de la contemplation par l'intériorité de l'unité. Énosis, l'union avec l'un. L'union avec un, c'est pas la contemplation. C'est quelque chose de très particulier. C'est pour ça que, d'une certaine manière, la personne, par l'intériorité, j'allais presque dire, comprenez bien,